pour montrer la puissance de Dieu et pour que Dieu prenne soin de nous aussi. Et tous ces éléments-là, qu'en est-il d'Élie ? Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, est-il comme nous ou pas ? Je vais commencer par « Dieu prend soin de nous ». Alors, la première apparition d'Élie, c'est dans 1 Roi 17. C'est la première fois qu'on le nomme. Au verset 1, un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade, vient dire au roi Akab. Et ce qu'il vient dire au roi Akab, qui était un roi pas très très doux, on va dire, il était même assez vicieux, Élie doit faire l'oiseau de mauvais augure. Il doit venir et lui dire, dans ton pays, il y aura une sécheresse. Qui aimerait entendre ça? Et quand Élie a reçu la nouvelle de Dieu, je suis sûr qu'il ne s'est pas dit « Ouais, chouette, je vais aller dire ça à Akab, je ne risque pas du tout ma vie, ça va être nickel. » Il a dû se dire « D'accord, Seigneur, si tu le demandes, je vais le faire. Mais moi, vas-tu prendre soin de moi ou pas ?» Et ce n'est pas précisé qu'il prie, mais je pense qu'en tant que bon croyant, il a prié pour ça, pour demander « Seigneur, d'accord, je vais le faire, mais prends soin de moi. » Et Dieu le fait. Au chapitre 3, du même verset, au verset 3 du même chapitre 17, l'Éternel dit « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Donc Dieu, même si ce n'est pas précisé que Élie a demandé de l'aide, prend soin d'Élie. Et ensuite, par la suite, dès qu'il n'y a plus de ressources à cette cachette-là, Dieu va directement prendre soin d'Élie et lui dire « Va là-bas, je t'ai déjà préparé quelque chose pour toi. » Et c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. J'ai un petit exemple. Quand j'étais plus jeune, du haut de mes 14 ans, je pense, je pensais avoir beaucoup d'expérience et être très âgé pour mon âge. Ça ne veut pas dire grand-chose. J'avais besoin d'un nouveau bureau. Alors vous me direz, ce n'est pas une question de vie ou de mort, hein, mais enfin, ça dépend des points de vue, mais pour moi, c'est assez important. Et du coup, on allait avec mes parents faire les magasins. Et si vous connaissez mes parents, vous savez qu'il faut faire chaque magasin pour trouver le moins cher et le meilleur. Je pense que vous connaissez tous ça. Mais du coup, on a passé toute une après-midi dessus. Et au bout de 2 heures, j'en avais marre. Mon père aussi, d'ailleurs. Et du coup, papa a proposé qu'on prie pour ça. Et toujours depuis ma sagesse de 14 ans, je me suis dit, prier pour un bureau, c'est un peu inutile, enfin, ça ne sert à rien. Et on a continué notre recherche et on n'a rien trouvé. 2 semaines après, j'avais complètement oublié l'histoire du bureau. Voyez à quel point c'était important. Mais une fois, je rentre de l'école pour manger à midi et je vois mon vieux bureau dehors. Je me demande, qu'est-ce qu'il fait là ? Et un tout nouveau bureau d'angle qui était parfait, juste ce qu'on voulait, était dans ma chambre. Donc, Dieu répond à nos prières, même quand parfois on oublie et il prend soin de nous. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est la grâce et par là la démonstration du royaume de Dieu. Quand Élie part de son point d'eau où les corbeaux venaient le nourrir, il va à Sarepta. Et là, il rencontre une veuve. La veuve avec un fils. Elle avait juste un peu d'huile et de la farine. C'était son dernier repas. Élie lui dit de lui préparer quelque chose à lui, et ensuite à elle. Elle lui dit, mais c'est tout ce qui me reste. Après ça, on mourra. Mais Élie la réconforte et lui promet que Dieu va subvenir à ses besoins et aux siens. Et c'est ce qui se passe. L'huile et la farine ne tarissent jamais. Et ils vivent environ 3 ans comme ça. Mais Il y a un malheur qui tombe sur cette petite maisonnée. Le fils de la veuve tombe malade et il meurt. C'est injuste. Ici, Élie ne comprend pas plus que nous pourquoi tout d'un coup ce petit garçon meurt. Donc du coup, c'est un peu une complainte que Élie fait à Dieu. Au chapitre 17, versets 20 et 21, Élie implore. Puis il implora l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Ici, Élie ne comprend pas ce qui se passe. Il crie à l'injustice et implore le Seigneur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, sur la terre où était Sarepta, la parole de l'Éternel n'était pas répandue, on va dire. Donc du coup, ici, Dieu va agir pour rendre grâce à cet enfant et aussi pour montrer un petit peu du royaume de Dieu, montrer sa puissance et ce qu'il souhaite pour nous. Donc au verset 22, « L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revient en lui et il reprit vie. » Donc, par la prière, on peut faire une démonstration du royaume de Dieu et rendre grâce aussi, ou demander la grâce pour quelqu'un. Ensuite, il y a une confrontation. Élie va vers le roi Achab et le confronte. Il dit « Amène le peuple et tous les prêtres de Baal à la montagne de Carmel. » Là, nous ferons une sorte de concours, comme ils l'ont si bien montré dans le sketch. On prendra deux bœufs, un pour les prêtres de Baal, qui le prépareront et demanderont au dieu d'allumer le feu. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'existe pas. Je ferai la même chose de mon côté, je préparerai l'autel et je prierai pour que Dieu consume ce sacrifice. Alors, c'est les prêtres de Baal qui commencent. Élie se moque d'eux et leur dit « Mais ce n'est pas le vrai Dieu. » Ils l'ont très bien fait d'ailleurs. C'était quoi ?« Si tu n'es pas vrai, tu ne répondras pas. » Ah non ? Bon, bref, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Et du coup, c'est à peu près ce qu'il dit. Mais s'il n'est pas vrai, enfin s'il est vrai, qu'il vous réponde. Il est peut-être sourd. Criez plus fort. Alors ils font plein d'efforts, mais rien ne se passe. Ensuite, Élie, c'est à son tour. Maintenant qu'il n'y a pas eu d'effet de la partie adverse, Élie se pose, prépare l'autel au même endroit où l'autel a été détruit, prend 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël et prie à Dieu de mettre le feu sur cet autel. Et ça se fait. Ici, tout ceci a été fait pour démontrer au peuple la puissance de Dieu, mais aussi, pas seulement. Par ce geste, il y a aussi le rappel de l'alliance que Dieu a formée avec nous, avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Et cette alliance a été rappelée aussi par les paroles que Élie fait en priant. Et c'est au chapitre 18, versets 36 à 37. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Donc, par ces paroles, on peut voir que Élie rappelle l'alliance. Et l'alliance que nous avons est vivante par la prière, car c'est un lien qui nous unit à Dieu. Encore un autre point où l'on peut prendre exemple sur Élie, c'est la persévérance. On a tous connu ça. On a tous des sujets où on a prié, prié et reprié sans beaucoup d'effet, pour certains. Des fois, on reçoit une réponse à la seconde et des fois, ça prend du temps. Et au chapitre 18, verset 44, on voit que Élie prie et demande plusieurs fois à son disciple de voir si la sécheresse prend fin ou pas. Alors au verset 44, « À la septième fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Là, on peut voir que Élie n'abandonne pas. Il prie une première fois. On ne sait pas la prière, mais « Seigneur, fais que la sécheresse prend fin. Mon serviteur, peux-tu aller voir si c'est le cas ?» Rien. Deuxième fois, « Seigneur, est-ce que la sécheresse peut prendre fin ? Mon serviteur, peux-tu aller voir ?» Toujours rien. Sept fois de suite, le serviteur, il devait se poser des questions. Enfin, est-ce qu'il est gaga, Élie ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous pouvons ici prendre exemple sur lui. Mais en même temps, Dieu avait annoncé qu'il y aurait une fin de sécheresse. Donc du coup, vous allez me dire, et je le pense aussi, c'est plus facile pour Élie de croire ça. Mais nous avons aussi une promesse pour mettre fin aux sécheresses de nos vies. Car la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Tu nous vois un petit exemple. J'étais au collège et j'avais une branche favorite, l'allemand. Être mauvais, c'est un petit euphémisme, honnêtement. J'étais très très nul et j'avais une prof qui était très 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 exigeante. Et quand on rentrait en classe, c'est normal, on parle et elle fait « 999, here is ein Diktatur !» Et plein de choses comme ça. Du coup, elle était un peu effrayante, on va dire. Et du coup, avec mes capacités, j'avais rarement de très bonnes notes et c'est pas comme si elle essayait de m'encourager. Elle disait « Mais Philippe, t'es nul !» Du coup, même si je travaillais, ça me perturbait. Enfin, des fois, je me rappelais plus de rien. J'avais bien révisé, pour une fois. Et je me rappelais plus de rien. J'étais juste devant ma feuille et j'étais... Ah ! Je sais pas. Et du coup, j'en ai parlé avec mes parents parce que je suis aussi quelqu'un qui se plaint beaucoup. « Ah, mais j'en ai marre de cette prof, elle me saoule, je la déteste. » Et mes parents, ils ont le bon réflexe. Ben, on va prier pour ça. On va prier pour elle aussi. Et j'étais « Bon, d'accord, mais bon... » Fils de pasteur, obligé, non. Donc du coup, j'ai prié, au début sans trop de conviction, et petit à petit, j'ai continué, et ben, pas de réponse. Enfin, je la détestais toujours autant, j'étais toujours aussi mauvais, franchement, c'était horrible. Mais vers la fin de l'année, j'étais toujours aussi mauvais, hein, mes capacités n'ont pas amélioré, parce que, voilà. Mais, il y a eu un petit changement avec la prof, en tout cas dans la classe, c'est qu'elle commençait, enfin, elle critiquait plus, elle ne commençait plus à nous détruire quand on avait de mauvaises notes. Elle venait à la fin du cours pour demander s'il y avait besoin d'aide. Enfin, elle me donnait plus de travail, en gros, mais c'est pas grave, elle voulait m'aider pour que j'arrive à faire ça. Donc du coup, ça c'était quelque chose de chouette, et pour moi c'était une réponse de Dieu aux prières, parce qu'après je la détestais plus, elle me faisait même marrer, donc du coup c'était bien. Donc persévérons dans la prière, même si on n'y croit plus. Ensuite, comme l'a dit Xavier au début, les plaintes et les désespoirs, on en a tous. après cette grande victoire d'Élie sur les prêtres de Baal, il a un grand moment de désespoir. Mais en même temps, c'est normal, Jézabel, la reine du pays, veut sa mort. Donc il prend peur et il fuit. Il fuit dans le désert. Au verset 19, verset 4, on peut voir tout son désespoir. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne veux pas mieux que mes ancêtres. » Élie est triste et déprimé. Combien de fois sommes-nous dans ces moments-là où on dit « J'en ai marre, Seigneur, pour x, y raison. L'école ne va pas, les amis, ça ne va pas, tout ne peut pas aller. » Et le Seigneur fait quelque chose de très chouette à ce moment-là. Il lui envoie un ange. Il lui envoie un ange pour le réconforter. Et il ne le sermonne pas en disant oh, « Tu vois, il y a eu une grande victoire. Pourquoi tu ne fêtes pas et tu es dans cet état-là maintenant ? Enfin, réfléchis un peu. Franchement, tu n'as rien à avoir peur. C'est qu'une seule personne qui veut ta mort. Ce n'est pas tout le monde. » T'as rempli une partie de ta mission, c'est bien, sois heureux. Non. Dieu lui donne du réconfort par le biais d'un ange et lui offre de la force, une nourriture et un but. Il lui dit d'aller vers le nom Mont Sinaï. Et au Mont Sinaï, Dieu se révèle à Élie. C'est quand même assez fou. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait ? Il se plaint. Il voit Dieu, on a tous envie de ça, et il se plaint. Vous imaginez, vous, arriver au paradis et dire « c'est pas trop tôt ». C'est un peu l'effet que ça fait. Et je trouve ça très humain, donc ça montre à quel point Élie est proche de nous. Et donc on peut le voir au verset 14. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Donc, là aussi, il se plaint pour les mêmes objets qu'il était triste avant. Il est seul, c'est un des derniers, d'après lui. Et tout ce qu'il fait, il l'a fait pour Dieu, mais il a quand même des conséquences. Enfin, il y a Jézabel qui veut sa mort. Et Dieu, à ce moment-là, il lui donne de l'espoir. Il lui dit, mais non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas agenouillé, qui ne se sont pas agenouillés devant Baal, et je vais te donner un successeur, quelqu'un sur qui tu pourras t'appuyer et qui reprendra le flambeau après toi. Nous aussi, on a un bon espoir que nos prières soient entendues. Pour nous, les croyants, nous avons eu l'espoir que le Christ revienne. Et cet espoir a été rempli quand Jésus-Christ est venu. Et à l'approche de Noël, nous pouvons nous rappeler que toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible, tous ces espoirs que nous avons là, vont être remplis à un moment donné. En conclusion, Élie, qui est un homme comme nous, qui avait les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui, que ce soit sur le désespoir, la plainte, les demandes auprès de Dieu, est un bon exemple d'un homme de prière. Et par la prière et grâce au don de l'Esprit, nous pouvons tous être de petits Élie, en remplissant le ministère qui nous est confié. Bonjour.
Alors, je vais reprendre la suite. Donc, vous avez bien vu, enfin, si on va dans Deux Rois, on voit que Élie est monté directement au ciel, sans passer par la... Vous faites quoi, en fait, là ?
On fait le sketch sur la montée d'Élie.
En fait, c'est un jeu de mots. mais... On va passer directement au message. Merci pour le sketch. alors en fait, je vais parler de Élie dans le Nouveau Testament. Donc ça peut paraître un peu fou parce que Élie il est apparu il y a 500 ans avant le Nouveau Testament. Alors avant on peut voir, je vais vous dire dans les grandes lignes un peu. En gros, mon message, je l'ai écrit en trois étapes. Il y a la première étape où il y a la transfiguration, justement, on va un peu revenir dessus, mais où justement Moïse et Élie se révèlent avec le Christ. Ensuite, il y a justement Jean-Baptiste. Alors, on verra plus tard, parce que justement Jésus dit que Élie était Jean-Baptiste, ou l'inverse, Jean-Baptiste était Élie. Et puis, on va terminer avec une petite intro sur les miracles. Tout ça, vous verrez un peu le lien. Enfin, vous verrez bien le lien. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut paraître un peu bizarre qu'Élie soit de retour dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, Malachi l'avait prédit, déjà plus de 400 ans avant. Si on lit dans Malachi 4, verset 5... Il est dit « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Donc, ce n'est pas la seule parole, il y a Ésaïe aussi. On peut voir déjà que ça avait été prévu. Alors, on va juste attaquer le texte de la Transfiguration. Donc, pour qu'on puisse se remettre dedans, on va juste relire le passage. Donc, je vais appeler Nadia pour qu'elle puisse... venir le dire, j'ai juste au niveau de la version, j'ai pris la version d'Arbist parce que j'aime bien quand je fais des études. Cette version, elle est un peu compliquée à lire, mais elle reprend vraiment bien ce qui a été dit en texte original. Donc voilà.
Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère. Il les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre, répondant, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix de la nuée disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et lui, répondant, leur dit, En effet, Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur.
Alors voilà, dans ce passage, il y a Jésus qui se révèle. En gros, il part avec justement Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils en soient témoins. Il les emmène sur la montagne et là, il est transfiguré. Donc transfiguré qui vient justement là, en gros du grec métamorpho, qui veut dire changeur de forme, de figure, d'aspect extérieur. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc sa face, la face de Jésus, est manifestée dans une gloire éclatante, jusque-là cachée sous forme d'esclave. Comme on peut lire justement dans Philippiens 2, verset 7, en parlant de Jésus, « Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. » Et on voit que ses vêtements, ils sont d'une blancheur immaculée, ce qui représente vraiment la pureté inaltérable. Et à côté de lui apparaissent deux hommes, et pas n'importe lesquels. Donc il y a Moïse et Élie. Donc on peut se demander, mais pourquoi ces deux personnes? Pourquoi, enfin, on sait très bien que, par exemple, Dieu aimait beaucoup Daniel et David. Alors pourquoi il les a pas pris les deux pour descendre? Pourquoi eux? Alors, c'est assez, peut-être la réponse est un peu simple, mais en gros, on sait que la loi divine a été apportée par Moïse. Donc, Moïse est le représentant de la loi. Et Élie a eu pour mission de ramener le cœur du peuple d'Israël à Dieu, et en étant le représentant des prophètes. Malheureusement, le ministère, Moïse et Élie, n'a pas beaucoup porté de fruits. Et le peuple a refusé de se soumettre à la volonté de Dieu. Alors, je ne vais pas spécialement décrire en détail la transfiguration. Ce n'est pas le but ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la fin, mais je vais quand même juste faire un survolé, en gros, pas que je prenne un texte qui n'a rien à voir sans que vous sachiez vraiment ce que c'est. Donc, quand les disciples voient Jésus, Élie et Moïse, Pierre leur propose de construire trois tentes pour les abriter. Apparemment, ils devaient sûrement peut-être anticiper la fête des tabernacles. Et en plaçant justement Jésus au même niveau que Élie et Moïse, comme des simples hommes. Du coup, ces derniers sont retirés pour laisser place à Jésus. Élie et Moïse ne sont que des porte-parole de Jésus, alors que Jésus est la parole. Il est la parole de Dieu. Mais pourtant, les prophètes avaient annoncé un précurseur préparant le chemin du Messie. Comme j'ai dit, qu'on peut voir dans Malachie ou Ésaïe, je ne vais pas spécialement reprendre les textes. Et Jésus répond qu'il est déjà venu et que personne ne l'a reconnu. Alors bon, c'est bizarre. S'il est déjà venu, pourquoi on ne l'aurait pas reconnu? Du coup, là, on voit très bien, tout à la fin, que Dieu dit, enfin, les personnes reconnaissent comme quoi c'est Jean le baptiseur. Alors, du coup, on se questionne qui est réellement Jean le baptiseur. Jésus dit que c'est Élie qui annonce le retour du Messie, mais Jean-Baptiste, quand on le questionne, il répond que bah, c'est pas lui. Du coup, on sait pas trop croire si jamais c'est Élie, si jamais c'est le Christ, parce qu'on se demande aussi si c'est le prophète. Et puis on se dit, d'un côté, Jésus, il mentirait pas. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Puis d'un autre côté, ben, Jean-Baptiste, il sait qui il est. Donc, qui croire? Est-ce qu'on prend les deux? Ou on n'en prend aucun des deux? Ou on choisit? Bon, moi, je pense que c'est plus lui ou plus lui. Alors, moi, personnellement, je pense que les deux, ils ont raison. Alors, ça paraît un peu stupide, mais ben, je vais un peu vous expliquer, justement, que ce n'est pas forcément stupide. Donc, alors, heureusement, dans la Bible, on nous a prémâché le travail, parce que les pharisiens, donc ces personnes qui connaissaient très très bien les textes, mais qui étaient un peu, enfin je voudrais dire, dépourvus de sens, parce que malgré leur connaissance de texte, ils n'ont pas réussi à reconnaître Jésus, alors qu'ils avaient tout en connaissance. Ils s'étaient posé la même question que lui, donc ils arrivent vers lui, et on voit dans Jean 1, 20-21, et il confessa, alors... Là, je prends au point où, justement, les pharisiens demandent à Élie et à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste répond, « Et il confessa et ne nia pas, et confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Alors, bon. À partir de là, à défaut de savoir qui il est, au moins on sait qu'il n'est pas. Donc c'est déjà un bon début. Et on peut se demander pourquoi Jean répond de cette manière. Tout d'abord, alors il devait être clair que ce n'était pas lui le Christ, ce n'était pas lui le Seigneur. Si quelqu'un si des personnes le confondaient, il fallait au moins qu'il soit clair avec ça. Alors pourquoi il dit qu'il n'est ni Élie ni le prophète ? C'est par rapport justement encore aux anciens écrits, par exemple dans Malachie 4, verset 5, où il dit « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. » Et donc Jean leur répond qu'il n'est pas cette personne. Donc là, en gros, Jean, il répond par rapport aux écrits de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il répond de cette manière. Alors, il faut aller voir un peu plus loin qui il est réellement, parce qu'il va quand même dire qui il est. Donc, si on lit Jean 1, versets 6 à 8, il est écrit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui, lui n'étant pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. » Donc, en gros, Jean, c'est un témoin. Donc, c'est déjà une bonne chose. On sait qu'il est témoin, qui vient rendre témoignage, parce que l'homme est spirituellement aveugle. Donc, après, on continue toujours, on revient un petit peu en arrière, puis on voit dans le chapitre 5, verset 35, en parlant de Jean, il dit « Celui-là était une lampe ardente et brillante. » Donc c'est une lampe, mais attention, il n'est pas la lumière. Ce n'est pas la même chose. Une lampe donne la lumière qu'en relation avec la source d'énergie dont elle dépend. Pardon. Oui. Donc, en gros, comme si jamais... je sais pas. Donc, dans le psaume 18-28, par exemple, c'est marqué « Car c'est toi qui fais luire ma lampe, l'Éternel mon Dieu fait resplendir mes ténèbres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas luire dans ce monde qu'en restant à proximité de Jésus, comme le dit Jean dans le chapitre 8, verset 12. Jésus donc leur parla encore en disant « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc pour résumer, Jean est un témoin et une lampe pour nous éclairer, par rapport à il y a 2000 ans. Il est venu préparer le chemin pour Christ, comme le dit Malachie, dans le chapitre 3, verset 1, « J'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Donc on peut voir que Jean le baptiseur est bien lui-même et pas une autre personne. Alors pourquoi Jésus répond que Jean-Baptiste, c'est Élie alors ? Alors, moi, je vais prendre un texte qui n'a rien à voir avec Élie, mais pour qu'on se plonge un peu dans comment Jésus avait l'habitude de répondre aux gens. Parce qu'il aimait bien un peu qu'il ne donnait pas des réponses telles quelles. Il fallait que les gens réfléchissent un peu aussi. Alors, si on lit dans Matthieu 25, versets 42 à 45, il est dit. Donc, là, c'est Jésus qui leur répond. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondirent disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou infirme ou en prison et que nous ne t'avons pas servi. Alors il leur répondra. Disant, en vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Donc Jésus, là, il se compare à n'importe qui. Donc on devrait considérer notre prochain, n'importe qui, la personne à côté de moi, derrière moi, en Syrie, ou j'en sais rien, comme Jésus. Ça, c'était sa manière de parler. Fallait que, voilà... Jésus, il n'a jamais été en prison, mais on doit se mettre dans la peau des gens qui ont été en prison et... c'est peut-être pas le bon exemple, mais vous avez un étranger qui sonne à votre porte et qui n'a pas bu, qui a très soif et très faim. Vous devez l'accueillir comme Jésus, même si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'était la manière de Jésus comme il parlait. Et à mon avis, Jésus parlait d'Élie dans cette manière en disant... Élie va venir pour préparer mon chemin, mais ce n'est pas le Élie physique qu'on avait l'habitude de voir. C'est pour ça, c'est un Jean-Baptiste, donc c'est vrai, Jésus, non, Jean-Baptiste est Élie, mais il n'est pas physiquement, il est dans sa manière, il fallait retranscrire ça de cette manière-là. Bon, alors maintenant qu'on sait que Jean n'était pas Élie, il faut interpréter, Alors, maintenant qu'on sait que Jean n'est pas Élie, mais qu'il fallait l'interpréter, comme ça, ça nous avance à pas grand-chose sur la vie d'aujourd'hui. Parce que, voilà, Élie, il nous sert à quoi maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend d'Élie? Parce que cette histoire, elle s'est passée il y a 2500 ans. En quoi ça nous touche? Alors, moi, j'ai envie de lire les versets dans Jacques 13 à 18. Alors, il dit... Quelqu'un parmi vous est-il maltraité qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est malade qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec insistance. Il ne plut pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre reproduisit son fruit. Donc dans ce passage, Jacques met en avant la prière. Peu importe si nous sommes malheureux, malades, joyeux. Je fais juste un petit parenthèse sur la maladie parce que là il en parle au niveau de la guérison. Il y a plusieurs étapes dans la Bible. Certaines fois, si jamais dans l'Ancien Testament, on peut voir si quelqu'un était malade, c'est parce qu'il avait péché ou c'était pour se révéler. Dieu se révélait dans les guérisons ou des choses comme ça. Mais je vais pas reprendre. On peut vraiment en faire tout un. On peut passer 40 minutes sur la guérison, mais faut juste se dire qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Si les gens tombent malades, c'est pas pour une raison ou pour une autre. Si tel et tel est guéri, c'est pas pour une raison ou pour une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire d'amalgame là-dedans, enfin, en lisant ça, à mon avis. Je vais en revenir un peu plus tard, mais c'était vraiment... parce qu'on peut vite faire des amalgames quand on lit ce genre de passage. Jacques nous encourage à prier peu importe les occasions. Et il nous parle d'Élie. Et là, on apprend qu'Élie est une personne comme vous et moi. Un homme avec ses faiblesses et ses envies, mais un homme qui prie. Mais il est dit... Un homme qui prie avec instance, même si dans les chapitres, justement, Philippe nous a dit qu'on ne sait pas s'il a prié ou pas, mais on le devine quand il passe tous ses jours dans le désert. Enfin, moi, je me mets à sa place, je pense qu'il a quand même dû beaucoup prier. Donc, on sait que c'était quand même quelqu'un qui priait à répétition. Donc, même si dans les chapitres qu'on a lus, on ne lit pas beaucoup... Je pense que tout le monde serait capable d'accomplir des miracles aussi grands qu'Élie si nous avions les mêmes relations avec Dieu. Donc suite à la transfiguration, Jésus et ses disciples descendent de la montagne et croisent un père qui leur dit que son enfant est malade. Les disciples n'arrivent pas à le guérir et demandent à Jésus pourquoi ils n'arrivent pas à le guérir et Jésus leur répond... Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, je pense que ça met pas mal de choses en question. Enfin, un grain de moutarde, c'est pas grand, hein. Je pense que si j'en avais un, ce serait grand comme ça, plus ou moins. Donc, si on avait la foi aussi grande que ça, on pourrait déjà déplacer des montagnes. Alors, après, la question, c'est si j'ai la foi, pourquoi je demanderais à cette montagne aussi de partir? Mais c'est tout dans l'idée. Hein. Jésus parlait beaucoup aussi avec des images. Après, moi, j'aime bien voir ça au niveau des miracles. Donc, déplacer une montagne, c'est un miracle. Mais finalement, c'est quoi un miracle? Alors, moi, j'ai pris le dictionnaire Larousse. Et puis j'ai ouvert, le miracle. Alors j'ai cherché sur internet, Larousse, alors peut-être c'est pas le même que vous avez à la maison, je ne sais pas. C'est marqué « phénomène interprété comme une intervention divine ». Alors, j'ai aussi cherché sur Wikipédia, pour être sûr. Et, et là, c'est un peu plus poussé, on va dire. Un miracle désigne un fait extraordinaire, positif, non explicable scientifiquement. Il est vu comme surnaturel, attribué à une puissance divine et accompli soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité. Il s'agit d'une notion religieuse définie par rapport à la science. Donc en gros, un miracle, c'est un fait extraordinaire. C'est ça qu'on nous dit. Mais la question, c'est extraordinaire pour qui ? Alors, je vais prendre un petit exemple. Par exemple, moi, j'ai été victime d'un miracle. Un grand, hein. J'ai vécu 3 ans en Allemagne. Alors, ça paraît pas grand-chose, je sais pas, il y en a certains qui voyagent beaucoup, et de se dire, ah ouais, cool, des vacances et tout. Mais je pense mon niveau rejoignait pas mal celui de Philippe en allemand. Alors ça a été, pour mes profs et mes parents, c'était un miracle, je vous assure, et pour moi aussi. Donc finalement, pour moi, un miracle, ça reste une question de point de vue. C'est juste, justement, c'est vraiment une intervention divine, peu importe. Si jamais c'est grand à vos yeux, mais pas aux yeux des autres, c'est pas grave. Alors, mais ce qu'il faut se souvenir surtout dans les miracles, c'est que pour moi, c'est fait par Dieu et pour Dieu. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Si je prends par exemple Élie, justement, je vais relire le passage que Philippe a déjà dit, quand il est contre les 450 prophètes, pas une seule fois, Élie, il se vante lui-même d'avoir accompli ses miracles. Il ne va pas dire « Moi, j'ai fait tomber du feu ». Alors, il dit exactement « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. Et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu » et que tu as ramené leur cœur. Donc là, Élie, à mon avis, il a bien compris. Le miracle s'est passé par Dieu, et il le fait pour Dieu. S'il y a un miracle qui se passe dans notre vie, ce n'est pas le but qu'on le garde. Enfin, sinon, ça n'a aucun sens. Ou peut-être la démarche est mauvaise. Alors, donc je vais juste... J'arrive plus ou moins à la fin. J'arrive plus ou moins au final en sachant en quoi... Justement, on peut ressembler tous à Élie. Finalement, Élie, il a accompli des grandes choses. Il n'est jamais mort. Il a fait un barbecue contre 450 prophètes. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Mais nous, on pourra être la même chose que lui. Je pense, Philippe a dit des petits Élie, mais je pense qu'on peut tous être des Élie. Mais on ne fera pas tous les mêmes miracles. Ce ne sera qu'une question de point de vue. Donc, pour faire un résumé... on peut dire que la prière, elle nous est donnée. Elle nous est donnée gratuitement par Dieu. Donc, il faut l'user, comme l'a fait Élie. Et pour moi, le miracle, ça reste une question de point de vue aussi, mais pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous. Je vous donne juste un petit témoignage comme ça qui me vient. Voilà. Par exemple, je vous dis, je suis parti 3 ans en Allemagne. Je dis, OK, pour moi, c'était clair que si je devais y aller, c'était parce que j'avais reçu une réponse et il fallait que j'aille en Allemagne. Et il y a un jour où j'étais là-bas parce que j'étais vraiment très seul. J'étais au milieu d'une vallée, je n'avais pas Internet, je n'avais pas la télé. Donc ça paraît assez... Enfin, quand je vous dis que j'étais seul, c'est que j'étais seul. Et il y a un jour où j'étais vraiment, vraiment très attristé. Enfin, c'était, je pense, un des pires jours de ma vie. Et on peut se dire, mais alors voilà, si c'est un miracle, pourquoi Dieu il m'a mis là ? Alors, j'ai prié pour ça. Et là, j'ai compris... les béatitudes, enfin une partie, en disant, enfin ce truc qui me paraissait toujours abstrait, où on dit « heureux celui qui », et puis il n'a pas de quoi être heureux, « car Dieu blablabla bla ». Bla. Par exemple, « heureux celui qui pleure, car Dieu les consolera ». Je dis « ouais, super, je ne veux pas être heureux, enfin je ne peux pas être heureux en pleurant ». Mais grâce à ça, j'ai compris, j'ai été triste à un point énorme. Le lendemain, j'ai été consolé, j'étais, je crois, dans la plus grande joie que j'ai jamais connu dans ma vie aussi. Donc, quand je dis c'est une question de point de vue, c'est aussi qu'est-ce qu'on regarde. On a prié pour quelque chose et quelque chose d'autre se passe. Finalement, est-ce que c'est parce que notre prière pour laquelle on a demandé s'est pas réalisé, qu'on ne doit pas être content, ou faut voir en contrepartie qu'est-ce qui a pu se réaliser de l'autre côté. Par exemple, je vais prendre un autre exemple aussi qui me vient, c'est j'ai un ami, on va dire ça, bon, qui avait 70 ans, de mon église, qui a eu le cancer du foie. Alors, en gros, tout le monde a prié pour lui. Malheureusement, il est décédé. C'est des choses qui arrivent, normalement. Mais le truc, c'est que on peut voir de ce côté-là, Dieu n'a pas exaucé la prière, il est quand même mort. Mais d'un autre côté, en fait, il est mort juste un peu avant le mariage de sa petite fille, qui se passait à un endroit, et pour elle, c'était quelque chose de super important qui puisse venir. Et on ne sait pas comment il a pu avoir la force pour venir au mariage de sa petite fille. Donc finalement, vous prenez ce que vous voulez. Si jamais vous prenez le miracle n'est pas accompli, il n'a pas été guéri, ou vous prenez le miracle, mais il a pu vivre plus longtemps pour voir le mariage de sa petite fille. Donc c'est aussi, pour moi, une question de point de vue. Après, je redis, c'est une question de guérison, c'est plus compliqué. Je ne veux pas aborder ce thème plus loin. Donc, moi, j'en ai terminé sur ce sujet. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous n'étiez pas d'accord sur n'importe quoi, parce qu'on est tous humains, on fait des erreurs, et moi le premier, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on en discute. Si jamais vous ne comprenez pas certaines choses, c'est avec plaisir que je vais essayer d'y répondre, en tout cas. Merci.
Alors, on va passer à la scène. Aurélie, si tu viens prier pour ma passée. Ah. Donc, je vais lire dans Matthieu 26, des versets 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Alors on vous invite à passer ce temps de Sainte-Seine dans la méditation et on va passer une musique, il y aura les paroles qui seront affichées et on vous invite à vraiment vous concentrer sur les paroles de cette chanson et sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix.
Gethsémané, tu as pleuré amèrement. Tu savais que ta mort était proche, priant le Père d'éloigner la coupe. Mais ton cœur a débordé d'amour. Tu as eu compassion de ma vie. À la croix, sur le bois, ton cœur a été meurtri pour mes péchés.
que ta mort était proche, priant le Père d'éloigner la croix. Mais ton cœur a débordé
Seigneur Jésus, je veux juste te dire merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix et je te remercie parce que tu es toujours à l'écoute de nos prières comme on l'a entendu ce matin. Seigneur, je crois que tu as un plan pour chacune de nos vies et ouais, je te prie que tu puisses nous aider à persévérer dans la prière et à te faire confiance jour après jour. Amen. Oh là là, mais je trouve vraiment rien par ici, il n'y en a pas.
flûte alors, mais j'étais sûre d'en avoir laissé.
Mais franchement, vous pourriez mieux chercher.
Rassemblons nos idées.
Alors, que chacun cherche à un endroit.
Non, mais ça va pas tomber du ciel, on va pas en trouver comme ça.
Détendez-vous, il suffit de demander.
Et regardez, eux, ils peuvent peut-être nous aider. On essaye.
Bon, alors vous avez compris, on va passer à l'offrande.
Je vous invite à vous lever pour chanter le chant 933. Que ma louange te plaise. Vous rasseoir. Aurélie va prier pour l'offrande.
Seigneur, je te remercie pour tout cet argent qui a été récolté. Je te prie qu'il soit utilisé pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Amen.
Avant de passer à la bénédiction, on va passer un petit temps d'annonce. Donc j'invite Roger à venir.
Alors, il n'y a pas de projection d'annonce, donc je vais essayer de les faire. De mémoire, en fait, je les ai notées là-bas. Par où commencer? Cette semaine, je crois qu'il faut que je cherche mes notes. Merci pour votre patience. On voit que les jeunes sont mieux organisés que moi. Voilà. Alors, il y a à la sortie toujours les petits tickets qu'on peut prendre pour participer au camp de ski. Il y a déjà énormément qui sont partis. Donc, vous prenez un ticket, vous ramenez la denrée qui est proposée. Donc, c'est encore possible de participer au camp de ski de fin d'année de nos jeunes.
Pour la nourriture.
Voilà. Oui, non, vous ne pouvez pas aller skier avec eux, c'est vrai. Merci pour cette précision. Et la Claude Parnigoni qui tenait à remercier chacun pour sa participation à la kermesse, d'une manière ou d'une autre, c'est en librairie, l'animation des enfants aidait à monter, démonter. Et donc c'était vraiment, il tenait à dire ça, merci à chacun. Cet après-midi, il aurait dû avoir la sortie de nos jeunes d'école de dimanche, mais vu le temps, ils vont rester ici dans nos locaux. Et si vous êtes parents, vous êtes priés de venir à 15 heures pour la fin de ce temps partagé ensemble. Dimanche prochain, il y a un grand événement à la cathédrale de Lausanne où Fanny Uchetti sera celle qui apporte la parole. C'est à 18 heures du soir. Donc, nous sommes invités à soit y aller participer, si c'est dans vos possibilités, soit de prier pour cet événement. Et c'est un rassemblement des ONG chrétiennes devant les autorités et c'est un moment de sensibilisation à tout ce qui se fait par ces ONG chrétiennes. Dimanche prochain également, il y a le repas canadien, je vous le rappelle. Mardi 8 décembre, le fil d'argent, son repas de l'Avent. Donc rendez-vous ici à 11h30, mardi 8 décembre. Dimanche 20 décembre, c'est notre fête de Noël. 15h30, il y aura culte le matin et puis nous nous retrouvons à 15h30 pour fêter Noël ensemble. Donc, il y a un programme qui se met sur pied, encore temps de se joindre à la chorale et faire des propositions si vous avez des bonnes idées pour célébrer ensemble. Il y a aussi le journal, le quart d'heure pour l'essentiel, à votre disposition. Ce sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres à Mérin. Mais si vous n'habitez pas à Mérin, vous pouvez en prendre pour donner à vos amis. Samedi prochain, il y a la course de l'escalade, comme vous le savez, mais il y aura aussi distribution de biscuits, comme l'année passée au Forum Mérin, il y avait un accueil des gens qui sortaient du tram pour offrir un geste, mettre dans l'ambiance de Noël. Et si vous fabriquez des biscuits pour cela, les jeunes vont le faire le vendredi soir. Samedi matin à 10h, c'est le moment de la livraison et la sortie sera samedi prochain dans l'après-midi. Donc si vous pensez participer, venez me le signaler pour qu'on s'organise pour l'heure de la distribution. Il y a eu ces deux derniers dimanches un clip qui sensibilisait à cette visite à la famille Saillant, près de Florence, pour l'Ascension 2016. Vous êtes invités à vous inscrire déjà maintenant pour des questions pratiques d'organisation. Il y a une feuille sur le tableau à l'extérieur. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore oublié des choses? Non, vous n'avez pas suivi toutes les annonces. Le mémo est arrivé. Partez pas sans prendre le mémo. Et là, vous avez tous les renseignements donnés et oubliés. Donc, merci beaucoup pour votre attention.
Voilà, on arrive à la fin de ce culte. Donc, je vous invite à vous lever pour la bénédiction que... On chantera. Donc les jeunes, si vous voulez venir devant, c'est avec plaisir.